Mesdames et messieurs les députés, nous devons réagir. C'est pourquoi le président de la République a appelé ces dernières semaines à un sursaut collectif pour aider l'Ukraine et pour éviter le scénario du pire. La Russie ne peut ni ne doit gagner la guerre.
Ça, c'est Gabriel Attal, le Premier ministre, donc lors du débat à l'Assemblée sur l'aide à l'Ukraine et le fameux accord de sécurité bilatéral qui a été signé. Bonsoir Tetiana Ougarkova.
Bonsoir.
Et bonsoir Volodymyr Yarmolenko.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être là tous les deux. Vous êtes philosophe et écrivain, Volodymyr. Vous présidez le Pen Club. Vous êtes journaliste responsable du département international pour l'Ukraine Crisis Media Center. Tetiana, vous avez tous les deux un podcast qui s'appelle L'Ukraine face à la guerre. Et je le disais, on s'est déjà croisés. On s'est croisés lorsque nous étions, nous, à Kiev. À ce moment-là, on reviendra sur là où on est resté d'une certaine façon, en fait, parce que moi, je m'en souviens assez bien, en fait. Je voudrais savoir si vous avez suivi ces débats, ce qu'on vient d'entendre, notamment de Gabriel Attal, débats qui, avec un vote très large, évidemment, oui, nous devons aider l'Ukraine, mais avec aussi une opposition derrière. Comment vous avez suivi ces débats et comment vous les vivez ?
En fait, on constate ce changement très très marquant de la position française. Gabriel Attal, mais tout aussi bien Emmanuel Macron. Les paroles, les thèses des hauts dirigeants français étaient très bien accueillies en Ukraine, puisque bien sûr, on ne discute pas concrètement l'envoi des troupes françaises sur le sol ukrainien, on ne discute pas concrètement l'emploi de l'armée, de l'OTAN en Ukraine, mais il est très important pour nous les Ukrainiens de voir ce réveil, cette capacité de leadership français, de voir la réalité en face et de reconnaître que cette guerre qui a lieu actuellement en Ukraine, ce n'est pas une affaire ukrainienne, c'est une affaire européenne.
Vous parlez de réveil, Tetiana, est-ce que c'est le mot que vous employeriez, Volodymyr Yarmolenko? Quand on dit réveil, ça veut dire qu'on s'est un peu endormi. Vous avez le sentiment qu'on est un peu sorti de notre léthargie ou pas?
Pas encore, je pense, okay. mais ça arrive et je me rappelle très bien que décembre dernier, on a eu à Kiev un philosophe français, Pascal Bruckner, qu'on a rencontré d'ailleurs aujourd'hui aussi, et on a fait un débat avec un titre « L'Europe doit se réveiller ».
Ouais.
Donc, et je pense qu'il y a pas mal des choses qui se sont passées après décembre, et c'est bien que ça veut dire que l'Europe a vraiment mené par la France. Et ça, pour nous, c'est aussi important. Donc, c'est vu en Ukraine que l'Europe se réveille menée avec le leadership français, ça c'est bien.
Quand je disais tout à l'heure, Tetiana, que je me souvenais parfaitement bien de ce qu'on s'était dit à ce moment-là, lorsqu'on s'est croisés, vous nous avez dit « soyez prêts », parce que c'est sur vous que ça va tomber. Évidemment que toute l'Europe entend ça, l'entend empiriquement. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui qu'on l'entend mieux encore? Parce qu'il y a eu effectivement ces phrases d'Emmanuel Macron, mais l'Europe n'a pas renversé la table encore quand même. Ou est-ce que vous avez le sentiment que si, l'Europe est en train de renverser la table?
C'est tout le début, en fait, de prise de conscience de danger que la Russie représente pour le continent européen, de danger que ça représente pour la civilisation occidentale. Aujourd'hui, avec cette capacité d'affronter le danger représenté par Poutine, voilà, qui est absolument contre l'Europe, contre les valeurs sur lesquelles repose notre civilisation. Et oui, nous voyons cette prise de position qui est prête à affronter les armes à la main, ça c'est vrai, les armes à la main, cette agression russe, c'est très important puisque la prise de conscience qu'on...
Les armes à la main vraiment, y compris les nôtres.
Les armes à la main, c'est-à-dire les armes tout d'abord envoyées à l'Ukraine,
d'accord,
n'est-ce pas? Aujourd'hui, avec cette solidarité tchèque, mais bien sûr aidée par d'autres pays européens, nous voyons un million d'obus qui vont faire son chemin vers l'Ukraine, ça c'est capital, puisque c'est à cause de l'absence de l'obus d'artillerie que l'Ukraine commençait à perdre les positions à Avdiivka, mais aussi partout. Donc c'est surtout le temps qu'on perd, c'est le temps qui fait des fausses promesses à Poutine que oui, il peut continuer, qu'il peut progresser, qu'il a déjà consacré toute une armée, il a consacré, selon les estimations américaines, 300 000 hommes, selon nos estimations ukrainienne encore plus, et ça l'arrête pas, et donc elle continue, et donc c'est le moment de se dire que oui, l'Ukraine aura autant d'armement que nécessaire, et autant d'autres assistances militaires, pourquoi pas avec les instructeurs étrangers, en Ukraine que nécessaire pour libérer les territoires.
Volodymyr, si les Américains lâchent, parce que les Américains n'ont toujours pas signé pour l'aide qu'ils vous ont promis, et on sait bien ce qui peut se passer derrière, si les Américains lâchent, est-ce que vous avez le sentiment que nous, les Européens, sommes capables de prendre une vraie relève et de pallier l'absence des Américains? Après tout, si nous sommes là, on n'en a pas besoin. Est-ce que vous avez cet optimisme-là ou cette inquiétude-là ?
Bah, écoutez, c'est la nécessité. Donc, ce n'est pas la question de vouloir ou pas vouloir. C'est la guerre en Europe, c'est la guerre contre l'Europe. Et on sait bien l'histoire américaine. Dans l'Amérique, le sentiment d'isolationnisme, ça revient de temps en temps. C'était présent au début du XXe siècle. Mm-hmm. Oui, heureusement, les Américains ont décidé pendant la Deuxième Guerre mondiale d'intervenir et aussi c'était vraiment décisif pour la victoire sur le nazisme. Mais c'est la guerre en Europe aujourd'hui, comme la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est pour cela que l'Europe est beaucoup moins divisée que pendant la Deuxième Guerre mondiale et doit se préparer à se défendre contre cette puissance totalitaire.
Il s'est passé d'autres choses depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Il y a eu notamment un attentat à Moscou, un attentat qui a été revendiqué par Daesh. Mais derrière, évidemment, on sait bien la narrative que Vladimir Poutine a voulu mettre derrière cet attentat, la menace d'une nouvelle offensive qui prendrait prétexte de l'attentat du théâtre. Est-ce que ça vous inquiète ou pas ? Est-ce que ça vous paraît même inévitable ?
En fait, cet attentat dans le City Hall de Crocus, en fait, a été revendiqué d'une manière très explicite par l'État islamique. Mmh. Et on était très surpris, peut-être pas tellement surpris, mais quand même, on ne trouve pas du tout convaincante cette thèse de Poutine que d'accuser l'Ukraine. Mmh. Mais il y a un danger qui est là et qui est imminent, et même plutôt pas, qui est même explicite, c'est que, avec cet attentat-là, la Russie cherche à se présenter en tant que pays victime. Au même titre que la France, victime de terrorisme, ou d'autres pays européens. Et donc, ça ouvre une voie de communication qui ont été rompues depuis plusieurs mois, voire peut-être 2 ans après la grande invasion russe. Voilà, de se présenter en tant que, voilà, sur le même bateau avec la France, avec d'autres pays, et donc communiquer, coopérer.
Vous avez cette crainte que l'une des utilisations, ce soit de créer une sorte de canal de communication.
Exactement,
en fait.
Et c'est en train de se passer déjà. Bien sûr que Emmanuel Macron, quand il s'est exprimé là-bas, il a fait la distinction entre le régime de Poutine, de Kremlin, et d'autre côté, le peuple russe, mais on nous interroge toujours sur cette empathie. Donc il y a bien sûr que les attentats terroristes ils suscitent beaucoup d'empathie normale, absolument naturelle, de la part de tout le peuple. Et donc, ça invite la Russie, et ça fait oublier que la Russie, actuellement, c'est aussi un État terroriste qui commet des actes terroristes sur la base de tous les jours contre l'Ukraine.
C'est marrant qu'on vous demande si vous avez aussi de l'empathie. J'ai été tentée de vous poser moi aussi la même question. En fait, je suis sûre que c'est très compliqué dans vos têtes quand il y a un attentat de ce type-là où on tue des innocents de manière absolument dingue, enfin à la mitraillette, et en même temps vous êtes en guerre contre ce pays. Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes à ce moment-là?
Est-ce que c'est compliqué
d'avoir de la compassion, en fait, tout simplement?
Oui, c'est pas la compassion, on n'est pas du tout heureux, en fait. On n'est pas du tout heureux de voir ce genre de actes contre les civils, que ça soit même que ça soit en Russie. Mais pour dire qu'il y ait que de là, on compatit vraiment, et peut-être pas, parce que voilà, ça fait 2 ans que on voit pas beaucoup de populations russes compatir avec de nos victimes tous les jours. Vraiment, comme vous savez, les troupes russes font des frappes indiscriminées aujourd'hui, par exemple, contre la ville de Kharkiv, avec des bombes d'aviation, ça détruit des immeubles. Donc, il n'y a pas beaucoup de compassion, et surtout, il n'y a pas beaucoup d'action politique qui proviendrait de l'intérieur du peuple russe, et oui, ça nous chagrine et ça nous éloigne. On regarde ça comme si à travers une vitre de fatigue ou de l'indifférence.
Et en même temps, il y a eu un autre moment, Volodymyr, ça a été la mort de Navalny. Et on a vu des gens sortir à ce moment-là, prendre le risque d'aller aux obsèques de Navalny, continuer à fleurir sa tombe. Est-ce qu'au fond de vous, dans ce moment-là, vous vous dites « Ah, il y a donc une autre Russie, et c'est bon à savoir ». Est-ce que ça traverse votre esprit, ça, ou pas du tout ?
Oui, ça traverse bien sûr, parce que s'il y a une autre Russie, c'est bien sûr un espoir pour tout le monde. Le problème, c'est que cette autre Russie, cette Russie alternative, est trop minuscule. Demandez-vous ici, par exemple, si l'immigration russe font beaucoup de manifestations chaque mois contre la guerre, contre Poutine. Ça, je vois pas, franchement. Donc, le problème, c'est que cette Russie alternative, elle existe peut-être, mais elle est trop minuscule et malheureusement, elle change pas grand-chose.
L'une des utilisations de ces attentats de Vladimir Poutine, ce serait de lancer une offensive. On arrive au printemps, donc on est dans cette période-là. On sait bien que là, tout récemment, il a visé des infrastructures, donc des coupures d'électricité constantes, y compris à Kiev, y compris à Lviv, y compris dans ces villes-là. On sait aussi qu'il y a une espèce d'obsession pour Odessa, la ville russe. J'espère qu'on en j'entends bien les guillemets que j'y mets. Dans quel état d'esprit vous êtes à cette arrivée de ce printemps où finalement le front a très peu changé par rapport à ces dernières semaines?
On nous annonce cette contre-offensive plutôt vers l'été 2024. Sérieusement, pour l'instant, on ne voit pas justement des preuves qui est qu'une invasion, une grande invasion possible du type de février 2022. Si l'armée russe arriverait à progresser d'une manière significative, ça sera dans une seule direction, en tout cas ce que nous est dit par des experts. Pour l'instant, il y a beaucoup de craintes pour Kharkiv. Kharkiv, pour vous dire, c'est une deuxième grande ville en Ukraine qui vit sans électricité depuis plus d'une semaine déjà, puisque les Russes ont effectivement détruit les fondamentaux d'électricité dans cette ville-là. Il est extrêmement difficile, mais en même temps, on ne constate pas des amassements de troupes russes qui seraient prêts d'ici quelques semaines de faire un progrès. Nous avons vu à Avdiivka, ça leur a pris 10 mois de prendre 40 km², combien d'hommes et combien de temps il leur faudra pour prendre une ville telle que Kharkiv.
Écoutez, on vous suivra en tout cas, et tout le mal qu'on vous souhaite, c'est que vous ne voyez pas ça avant bien longtemps, voire jamais. Je voudrais dire, Volodymyr Yarmolenko et Tatiana Ogarkova, que puisque vous êtes en France demain, on est le 2 avril, vous êtes à Paris 8 pour une conférence, des lectures de poésie notamment, et que le 3 avril, c'est mercredi à 21h, vous êtes à la Maison de la Poésie avec le magazine Cometa. On les embrasse avec Emmanuel Carrère qui est là et qui a été celui qui a fait aussi un bout de route avec vous en Ukraine, et je ne sais pas s'il reste de la place. En tout cas, ça se passe à la Maison de la Poésie à Paris, c'est mercredi le 3 avril. Renseignez-vous, je vous remercie chaleureusement tous les deux, merci beaucoup.